Média francophone public.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone, une émission de reportage et d'entretien aujourd'hui avec un petit retour au Québec. Dans un instant, nous irons sur le stand de Bernard Werber pour l'entendre échanger avec ses fans au Salon du Livre de Montréal. Et nous parlerons de son dernier ouvrage, une encyclopédie ludique sur les chats, entretien au sommet d'un hôtel mythique, lieu du bed-in de John Lennon, avec vue panoramique sur la ville. Nous recevrons sur notre plateau une femme médecin spécialisée dans la voix. Claude Fugain a soigné les voix de nombreux grands artistes. Bonjour docteur.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Alors selon vous, la voix dit qui on est. De quelle façon nous dévoile-t-elle cette voix?
La voix est caractérisée essentiellement par son timbre. Et le timbre, il est très sensible à ce qui se passe. Quand on téléphone à quelqu'un, on est capable de lui dire « tu n'as pas l'air d'aller bien », alors qu'on ne le voit pas, tout simplement parce que la voix a changé. Elle est sensible à l'émotion, au stress, à la maladie, à la peur, à l'angoisse. Tout peut intervenir sur la voix.
Tout
d'ailleurs, il n'y a aucune norme en matière de voix. Il n'y a que des moyennes.
Bon, nous en parlerons ensemble. C'est passionnant.
Bien sûr.
Votre livre est absolument passionnant aussi. Claude Fugain est dans la librairie francophone aujourd'hui. Et puis une séquence livre de poche avec Tahar Benjelloun et Jean-Noël Pancrazi qui nous emmèneront au Maroc et en Algérie.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont en multiplex avec nous comme chaque semaine. Bonjour Dominique Bressoux.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Vous êtes remise du Salon du Livre de Montréal avec nous?
Oui, ben en même temps, je n'ai pas fait le voyage.
Oui, c'est vrai. Mais c'était tard pour vous. Bon, bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne. On a réglé vos problèmes sonores cette semaine, tout va bien, vous avez un son génial.
Chic alors, surtout avec une spécialiste de la voix.
Oui, bon, elle va aller mieux aujourd'hui. Ouais. Ouais, ouais. En France, c'est Thomas Auxerre. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Puteaux, dans la librairie Lamandier. On va commencer avec un coup de gueule, tiens, ou un coup de cœur pour
ben
vous.
Oui. Eh ben moi c'est un coup de gueule cette semaine.
Un coup de gueule, allons-y.
Eh ben oui. Alors je vous avais déjà fait un coup de gueule contre les cartons abîmés, donc les livres arrivent et sont tout abîmés. Eh ben aujourd'hui Emmanuel, je peste contre les cartons qui arrivent et qui ne contiennent qu'un seul livre ou pire, un catalogue ou un poster. Alors ça arrive régulièrement, c'est très agaçant, et puis vous en doutez, hein, le fournisseur nous facture des frais de port, et puis surtout, bah, pour l'empreinte carbone, c'est vraiment pas terrible, quoi.
Ouais.
Donc moi je suis très agacé.
Vous êtes très agacé hein, sur l'écologie.
Ah bah oui.
Hein. Ouais, y a des choses qui vont pas. On en avait déjà parlé, ça va
oui,
pas.
Ça
donc
va
il
pas.
Faut s'améliorer absolument. Merci pour ce coup de gueule, disons, Thomas. Bonjour Josiane Letourneau.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Montréal, dans la librairie du Square, et vous avez un coup de cœur à nous proposer.
Oui, j'ai un beau coup de cœur pour La Rumeur du Monde est sans beauté, alors publié chez le MÉAC. Dans ce livre, François Godin s'est livré à l'exercice classique de l'écrivain tel qu'on se l'imagine, c'est-à-dire inventer des vies aux gens croisés dans la rue. Et à travers les 17 récits qui forment ce livre, il a merveilleusement revisité le concept avec audace, acuité et grand sens de la psychologie. Ses personnages ont de la chair, de la profondeur, son humour nous darde cruellement. Sa lucidité nous foudroie de sa lumière blanche. Et comme on en manque ici en ce moment de lumière, ça tombe bien. C'est ma belle surprise de l'automne, celle que j'ai envie de faire lire à tout le monde pour pouvoir m'en émerveiller avec eux après. Et oui, je suis profondément égoïste. En fait, alors faites-moi juste plaisir et lisez La Rumeur du Monde est sans beauté.
De François Godin. Si ça, c'est pas un coup de cœur, je m'y connais pas. Merci beaucoup, Josiane. Avant de partir à Montréal, à la rencontre de Bernard Werber et de sa nouvelle passion pour les chats, une anecdote personnelle racontée par l'un de nos invités. Aujourd'hui, c'est vous qui avez cette mission, Claude Fugain.
Oh, c'est pas une anecdote très drôle, mais j'avais une patiente qui, à la suite d'un très gros événement dans sa vie, d'un stress très important, était totalement aphone depuis plusieurs mois. Et après l'avoir soignée pendant 2 mois, on est arrivé à avoir une voix de nouveau normale. Et puis le procès est arrivé, puisque c'était à l'occasion d'un procès.
Oui, Annick, vous racontez son histoire
voilà.
Dans le livre.
Et donc, 2 jours avant le procès, bien entendu, elle perd sa voix. il fallait essayer de faire comprendre à la cour que c'était pas, elle ne faisait pas exprès et que c'était réellement une maladie. Donc je suis allée au procès pour la première fois de ma vie. J'étais terrorisée comme si on m'avait accusée de quelque chose. Et j'ai essayé de la défendre en expliquant, mais non, elle ne fait pas exprès, ce n'est pas une maladie imaginaire, c'est une réalité. Et donc j'ai dû exposer pendant un bon moment ce qu'était une aphonie par inhibition psychique. Simplement l'aggravation de ça m'a coupé le sifflet et j'ai pas pu en sortir une. Et ça donne ce genre de pathologie. Mais voilà. Donc, sinon, il y a beaucoup d'anecdotes, mais j'en avais de plus drôles, mais avec des patients connus.
Mais on va raconter.
Et ça, ça me met mal à l'aise de
les raconter.
On va en raconter
tout à l'heure. Quelques-unes. Voilà. Quelques-unes. Si. Voilà, avec quelques Jeanne Moreau. On parlera un peu de Jeanne Moreau.
Oui,
d'accord,
bien sûr. Ça bien va. Sûr.
Bon, merci beaucoup, Claude Fugain, pour cette histoire. Bernard Werber était l'invité cette année du Salon du Livre de Montréal pour ses livres sur les chats. L'auteur des fourmis connaît un grand succès au Québec. Nous nous sommes glissés auprès de lui lors d'une séance de dédicace.
Elle est gentille, votre chatte?
Elle est adorable. Elle a seulement 3 mois en ce moment.
3 mois, vous pouvez encore avoir un peu d'influence. Après, l'animal, il vit sa vie. Hein.
Mais merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de lire un de vos livres. Ça m'a permis, dans le fond, de connaître une psychologie que j'ignorais. Puis vous l'expliquez tellement bien dans vos livres. J'adore.
Merci. Ça fait plaisir d'avoir des lectrices comme vous.
Merci beaucoup.
Bonne lecture.
Merci.
Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Oh, moi je vais toujours bien quand je vais à Montréal.
En signature au Salon du Livre de Montréal. Ouais. On vous avait reçu dans la librairie francophone l'année dernière pour l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Et là, on vous parle de chats. Vous êtes un passionné des chats.
Oui, ce qui m'intéresse surtout, c'est essayer de comprendre le mystère des chats. Parce que c'est un animal, je crois, qui est très secret. Beaucoup de gens ont des chats chez eux, mais très peu de gens peuvent vraiment se vanter de comprendre leurs chats.
Bon, je vais vous laisser signer et on va enregistrer les réactions du public. Bonjour madame.
Bonjour, moi c'est Julie. J'adore tous vos livres, je les ai tous.
On est très heureux que vous soyez ici cette année. Je ne m'attendais pas à, à vous voir. Merci beaucoup, merci.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Ça vous touche Bernard, ces compliments?
Oui, c'est pour ça aussi qu'on vient, c'est pour rencontrer les lecteurs. Et moi je suis conscient que je vis grâce à mes lecteurs. Si j'ai plus de lecteurs, il faut que je fasse un autre métier. Hein.
Ça vous gêne un peu ou pas?
De quoi?
Quand les compliments sont un peu...
Non, je reçois ça comme des cadeaux. Vous savez, ça fait 30 ans maintenant que je fais ce métier. Au début, il n'y avait personne dans les dédicaces, alors j'ai souhaité qu'il y ait du monde. Donc maintenant qu'il y a du monde, j'apprécie. Et puis en plus, non, c'est une petite famille.
Ouais.
Parce que la plupart ont déjà lu plusieurs livres. Donc il y en a même que je reconnais qui était déjà là l'année dernière. Donc au bout d'un moment, c'est une tribu que je retrouve. C'est une famille, voilà.
C'est un travail de fourmi. Ça a été un travail de fourmi pour vous.
En tout cas, je crois que dans ce métier, ce qui est important, c'est la durée.
Oui.
Il y a plein d'auteurs qui sont à la mode à un moment ou parce qu'ils ont un prix littéraire. Tout d'un coup, ils sont sous le feu des projecteurs. Et puis après, qu'ils disparaissent. Et ça, je crois que ça va être très déstabilisant. Et moi, je crois à la régularité, que ce soit dans le travail et dans la production. C'est pour ça que je sors un livre en France tous les 1er octobre. Ça doit arriver ici aussi à peu près à la même époque. Et cette régularité fait qu'au bout d'un moment, il y a un rendez-vous avec les lecteurs. Ils savent que le 1er octobre, il va y avoir le livre.
Une demoiselle.
Bonjour, c'est pour ma maman, Angie. On est des très grandes fans avec ma maman, avec ma sœur, avec mon père. On a lu tous vos livres.
Merci.
Vous êtes française?
Oui.
Vous vivez ici?
Oui.
Mais je te vois, je me dis que tu vas fatiguer avec le bras.
Bon, ça va.
Ça va. Ou alors, il faut que tu te poses ou tu prennes une chaise.
Ça va, ça va.
Quel prénom?
Sylvie.
Les fourmis. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des fourmis.
Oui, c'est le plus fameux, là.
Ah, bah oui.
C'est le premier.
C'est la référence.
J'étais jeune quand j'ai écrit ça.
Ça vous gêne qu'on vous parle des fourmis encore?
Pas du tout.
Jamais?
Non, j'assume tous mes livres. Et puis, les fourmis, c'est mon entrée dans le métier.
Bah oui.
Je suis très content. Quel est votre prénom?
Angelina. J'adore vraiment vos livres. C'est incroyable.
On est Werber de mère en fille, hein.
Ah. Non mais je veux dire que votre imagination est débordante, c'est incroyable vraiment.
Bonjour.
Célia, sans accent sur le E s'il vous plaît.
Bon Bernard, on va vous laisser signer et on va se retrouver dans un instant dans un endroit beaucoup plus calme pour parler de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu des chats. On va parler des chats avec vous dans un instant. Bonne signature, on vous laisse terminer.
Merci à toi et à tout à l'heure.
C'est pour Cécile. Un peu stupide, mais votre nom de famille se prononce comment?
Parce que Werber.
Werber, d'accord. Non, parce qu'il y avait tellement de.
Werber, mais non.
Werber, d'accord.
Comment
Werber? Ça marche. Bonne soirée.
Merci.
Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevaux, les chouettes et les hiboux. Ma passion depuis toujours, c'est les cachalots, les baleines et leurs amours, les petits baleineaux. J'aime beaucoup les rapaces, les éperviers, les aigles, les colombes et les limaces. Bonjour la rime espiègle. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevaux, les chouettes et les hiboux. J'aime tous les animaux de l'arche de Noé. Mais le pire, le plus chacal, c'est l'homme et sa fiancée qui torture et qui massacre de bien jolis taureaux dans de sinistres spectacles et sous les bravos. Pour cela, je souhaite un jour que les charognards s'en viennent tourner autour de leur reste blafard, qu'ils finissent un peu comme les ours, les éléphants, qu'on dessine ou qu'on dégomme pour le goût du sang. Moi j'aime bien les animaux, les petits chats surtout. J'aime aussi bien les chevaux, les chouettes et les hiboux.
C'était le nouveau titre de Renaud avec les animaux dans la librairie francophone.
Les chouettes.
Voilà, nous voici arrivés au sommet de l'hôtel Reine-Elisabeth. C'est dans cet endroit d'ailleurs qu'a eu lieu le bed-in de John Lennon. On avait fait un reportage dans la suite John Lennon qui existe ici même, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur internet. On a une vue incroyable avec la cathédrale de Montréal qui est juste ici, le dôme en fait, puisqu'on domine la ville avec des baies vitrées. C'est un endroit magnifique. Ça vous inspire Montréal, Bernard Werber?
En tout cas, ce qui m'inspire dans cet hôtel, c'est de venir travailler ici, parce que je viens tous les matins travailler ici. Et en effet, j'ai cette vue sur tout Montréal et sur les collines avoisinantes, et même le regard se porte jusqu'au lac, enfin au fleuve.
Le fleuve, oui, le fleuve Saint-Laurent.
Le fleuve Saint-Laurent. Je dis lac parce que je vois d'ici une grande flaque bleue, donc...
Il y a l'Équerrier là-bas, avec les jeux du Niagara, mais c'est un peu plus loin.
Voilà, mais ouais, j'aime bien écrire en hauteur et... Et c'est vrai que cet hôtel a cet avantage de permettre de voir le ciel, ce qui est quand même très important pour trouver la créativité.
Bon, vous venez de publier cette encyclopédie des chats. Les relations sont compliquées avec les humains. Vous l'expliquez avec des premières pages très instructives d'ailleurs sur l'histoire. Les chats vénérés ou détestés, les chats se sont fait quand même une place de choix dans nos sociétés.
En 1990, il y avait 8 millions de chats et 8 millions de chiens en France. Actuellement, il doit y avoir 5 millions de chiens et 13 millions de chats. C'est-à-dire que le futur joue en faveur des chats. Tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de promener un chat. Déjà, ça vit en appartement. Et ensuite, parce que je crois que le chat a une capacité magique à apaiser l'homme. On sait par exemple que les gens qui possèdent des chats vivent en moyenne 20% de temps de plus.
Ah bon ?
Ce qui veut dire que le chat, d'une manière ou d'une autre, se débrouille pour que son maître vive plus longtemps afin de le servir plus longtemps.
Ça, c'est intéressant, ouais. C'est prouvé scientifiquement, ça?
Non, c'est une recherche que j'ai trouvée en faisant ça. C'est une équipe américaine qui a fait cette recherche. Maintenant, je n'étais pas à côté d'eux pour voir comment ils sont arrivés à faire ça. Mais en tout cas, il me semble que les gens qui ont des chats vivent souvent plus souriants et plus apaisés que ceux qui rentrent chez eux et ne font qu'allumer la télévision.
800 millions de chats dans le monde, 50 millions rien qu'en Europe. Les Égyptiens qui vont être victimes de leur vénération pour les chats. Le roi des Perses, Cambyse II, attaque l'Égypte en 525. Et il a une idée pour cela. Il connaît la passion des Égyptiens pour les chats et il va avoir une arme de guerre.
Il va attacher des chats vivants sur les boucliers de ses guerriers, si bien que les Égyptiens ne vont pas oser tirer à l'arc sur les Perses. qui vont du coup envahir toute l'Égypte et détruire le culte des chats et tuer plein de chats et tuer le pharaon de l'époque. C'est la fin de l'hégémonie égyptienne, mais aussi c'est la fin réellement de la civilisation qui vénérait les chats. Et à partir de là, les chats ont dû fuir. Ils ont fui en Israël, ils ont fui après, se sont dispersés en Europe et en Asie. Et on a pu suivre chaque siècle à quel moment les chats arrivent dans les pays. On sait par exemple qu'ils sont arrivés au Japon vers l'an 1000. Mais le chat a une dispersion par étapes. Contrairement aux chiens qu'on retrouve un peu partout, le chat a conquis pays après pays. Et en général, quand il arrivait, il fascinait, il était souvent déifié.
Avec des embarcations, il prend des embarcations, il est très malin parce qu'il se faufile. Et c'est comme ça que finalement les chats arrivent à se disperser dans le monde.
Alors, ils ont aussi séduit, parce qu'ils sont très mignons, et ils ont séduit les marins. Et ils ont offert comme service aux navigateurs de débarrasser les fonds de cale des souris et des rats qui mangeaient les réserves. À tel point qu'à un moment, chez les Phéniciens, on ne pouvait prendre un bateau que si on avait un minimum de chats à l'intérieur pour garantir la pérennité de la nourriture.
Oui, et là, ça devient intéressant pour les humains. Vous le dites d'ailleurs, ça. À partir du moment où on a compris que les chats pouvaient préserver la nourriture humaine, là, on s'est dit, bah tiens, peut-être qu'on va les garder, peut-être qu'on va en faire quelque chose au-delà de la vénération des Égyptiens. C'était de l'intérêt très égoïste.
Oui, et puis il y avait jusque-là d'autres animaux qui protégeaient la maison des différents prédateurs. C'était notamment les fouines et les putois et les belettes, mais ça sent très mauvais. Et dès que les chats sont arrivés, ils ont permis de lutter contre les serpents, les araignées et les petits rongeurs, et ils sentaient bon. Donc il y a eu un plus produit au niveau de la douceur et de l'intégration à la maison.
On va parler de ces chats, de la particularité, des particularités des chats, alors qu'on est dans un bain de lumière, parce qu'on a un rayon de soleil, il fait très beau dans le ciel de Montréal, le bain de lumière avec ses baies vitrées, ce soleil qui éclabousse votre visage, Bernard Werber. Le chat mange quand il a faim, contrairement à l'humain. C'est ce que vous expliquez, qu'il lui mange quand c'est l'heure. Ce qui permet au chat de rester le plus souvent en bonne santé, parce qu'il écoute son corps, il écoute ses besoins. C'est ce qu'on ne fait pas toujours, nous.
Le chat a l'air intuitivement de savoir ce qu'il faut faire. Par exemple, il sait quand il doit se reposer, il sait quand il doit s'étirer. Toute personne qui a un chat a dû le rester quelques minutes à l'observer que le chat au réveil s'étire et nous devrions faire pareil. Et même faire exactement les mêmes étirements que les chats. En même temps que je vous le dis, je vois que vous vous redressez et vous tenez
c'est
plus
vrai.
Droit.
C'est vrai.
Mais c'est une manière d'être dans son corps. Ensuite, le chat va à l'endroit où il y a des bonnes ondes. D'ailleurs, il suffit de regarder où va le chat et vous saurez où c'est qu'il y a des bonnes ondes dans votre appartement. Enfin, il y a cette propension qu'ont les chats de percevoir quand on est malade et de venir. Enfin, moi, mon chat vient à l'endroit où j'ai mal. Par exemple, si j'ai mal au ventre, il va se mettre sur mon ventre et se mettre à ronronner. Ce qui veut dire quelque part, il a pigé quelque chose qui est pourquoi j'ai mal, et il a aussi pris conscience de sa capacité à faire du bien.
C'est étonnant, hein, la complicité, la communication avec les chats qui communiquent aussi par leur queue. Les verticales, souvent, ça c'est un bon signe, ils peuvent aussi enrouler leur queue à celle d'un congénère.
Chez l'être humain, c'est un peu pareil.
On peut enrouler effectivement certaines choses.
En fait, c'est un bon signe.
Oui, et puis elle peut être verticale. Bref, je réalise en même temps votre magnifique blague, Bernard Werber. La queue peut aussi servir de balancier pour l'équilibre.
C'est vous qui gérez le montage de votre propre émission après.
Il n'y a pas de montage.
Tant mieux alors. Non, la queue, c'est vrai que jadis, l'être humain qui a été primate devait avoir une queue un peu plus... Enfin, une colonne vertébrale pour se prolonger d'une queue. Maintenant, j'ose plus faire aucune allusion. Et ça devait lui permettre de sauter d'arbre en arbre. Vu qu'on a arrêté de sauter d'arbre en arbre, on n'a plus besoin de cet appendice, mais les chats ont gardé leur capacité à redevenir des animaux sauvages. D'ailleurs, si l'homme disparaissait, le chat reviendrait à la vie sauvage très rapidement, alors que le chien dépend vraiment de l'homme et a besoin de l'homme pour le protéger, pour lui mettre des croquettes et pour le caresser. Le chat, il n'a rien à foutre. Il peut se déberder. Il peut se débrouiller. Voilà, je me laisse aller.
Bon, parlons des chattes, si je peux me permettre, Bernard, parce que
justement.
Les chattes qui peuvent mettre bas plusieurs fois dans l'année. Au Texas, en 1935, il y a Dusty, une jolie chatte qui a mis au monde 420 chatons. 420.
C'est beaucoup trop. Et c'est un des problèmes. Longtemps, les chats ont fait peur parce qu'ils avaient trop de petits. Mais maintenant, il y a cette tendance à vouloir leur enlever le sexe, que ce soit mâle ou femelle, pour éviter qu'ils se reproduisent.
Stériliser,
oui. Stériliser, et je trouve que c'est quand même pas très sympa pour un animal, parce qu'on lui demande pas son avis. Et ça se fait au nom de l'amour. C'est-à-dire, parce qu'on aime son animal, on lui enlève son sexe, je trouve que c'est pas très sympa.
C'est vrai. Bon, on va terminer avec l'intelligence des animaux. Vous répertoriez d'ailleurs l'intelligence de certains animaux. Le numéro 1, c'est le chimpanzé. Le chat est seulement 8e. Il est derrière le poulpe, 6e, le corbeau, 5e et l'éléphant, 4e. Il est pas si intelligent que ça, le chat, alors?
Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce test a été établi par des hommes et que pour les hommes, être intelligent, c'est ressembler à un homme. Le chat ne ressemblant pas à un homme, il y a plein de domaines dans lesquels le chat nous est bien supérieur. Et donc, ça n'a pas été pris en compte dans le test. Les domaines dans lesquels le chat nous est supérieur, c'est sur la vision. Déjà, il voit dans le noir alors que nous ne voyons pas dans le noir. C'est sur l'audition. Il a des oreilles orientables. Alors que nous, enfin, à part quelques êtres humains qui les font bouger misérablement, il y en a très peu qui peuvent orienter leurs oreilles. Il a des vibrisses, et ses moustaches qui lui permettent de percevoir tout ce qui bouge autour de lui, y compris derrière lui. Donc le monde est bien plus riche en informations que le monde que nous recevons, nous. Et je pense qu'il faudrait faire maintenant un test établi par des chats pour vérifier est-ce que l'homme est intelligent, et ça serait vraiment complètement équilibré.
Merci beaucoup Bernard Werber.
Merci à vous.
Merci. L'encyclopédie du savoir relatif et absolu des chats est paru chez Albin Michel. C'est un livre qui plaira évidemment à tous les amoureux des chats. Il y a de très belles photos d'ailleurs à l'intérieur. Merci Bernard.
Merci à vous.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Allez, la chronique des libraires, deuxième partie avec un coup de gueule et un coup de cœur, Déborah Damblon. Un coup de cœur aujourd'hui dans le rayon des bandes dessinées en Belgique.
Mais oui, pour Sam a des soucis, la bande dessinée de Geoff, le deuxième opus après Lily a des nénés. Donc avec des titres pareils, ben on entend bien qu'on est dans des histoires d'une bande de pré-ados, d'ados se posent des questions. Et donc c'est une bande de petits bretons qui vivent au bord de la mer. Et Geoff a vraiment réussi un très très joli coup double parce qu'en même temps il nous raconte une histoire qu'on a envie de suivre. Il y a un suspense, on se pose des questions, on se demande ce que les gamins ont fait, de bien, de pas bien. Mais surtout, surtout, il les dépasse. Peint avec tellement de justesse, tellement de réalisme. C'est délicieux, c'est comme une promenade justement au bord de la plage et c'est vraiment à lire à tous les âges.
Sam a des soucis aux éditions Casterman. Merci Déborah. Dominique Bressoux pour la Suisse, un coup de gueule.
Oui, ben coup de gueule sur les achats en ligne en fait, qui ne cessent d'augmenter et pour la Suisse, particulièrement en Suisse romande. Mais en fait, comme c'est la même chose partout dans le monde et qu'il serait difficile de revenir en arrière, moi j'aimerais dire finalement mon gros coup de cœur pour des sites comme lalibrairie.com en France ou librairequébécois.ca au Québec, des sites qui ont 350 000 références où on peut commander le livre désiré et aller le chercher chez son libraire. Mmh. Et en fait, c'est des sites où vous ne serez pas profilé, algorithmé, voire harcelé et où les conseils viennent de vrais libraires. Alors en fait, ce que je me demande, c'est quand est-ce qu'on fait ça en Suisse ?
Il y a des alternatives, voilà. Effectivement, pour les achats en ligne, afin de préserver certains établissements, et notamment les librairies indépendantes. C'est très très important, on le dit dès qu'on peut dans cette émission, vous le savez. Merci beaucoup Dominique. À suivre le docteur Claude Fugain pour un essai sur la voix, celle qui a soigné les voix de Jeanne Moreau, Philippe Noiret ou encore Anne Parillaud, raconte sa vie et son travail étonnant de phoniatre. Avant cela, voici le nouveau titre du chanteur belge Arnaud, qui a une sacrée voix dans la librairie francophone. Docteur, je vous laisse écouter cette voix très particulière.
Elle est un imprévu, un doute dans mes déroutes. Elle est ma chose et le machin de mes névroses. Elle est ma bulle d'air comprimé de mes soirées. Dans mes retours, elle est mon détour. Elle a dit, c'est par la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchèp tchèp, c'est fini. Elle est la flamme de mes pensées, une nouvelle idée. Elle est le radeau qui m'amuse, elle est ma muse. Elle est mon péché principal, mon obsession sentimentale. incendie mon petit coin de paradis. Elle a dit, c'est pas de la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchip tchip, c'est fini. Elle a dit, c'est pas de la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchip tchip, c'est fini. Ma sophrologie, elle est ma chance, son incidence. Elle a l'aimé et le plus beau de mes soucis. Elle a dit, c'est pas la poésie. Les hommes font comme les oiseaux, tchip tchip, c'est fini.
C'était Arnaud avec Tchip Tchip, c'est fini. Claude Fugain, que dit-elle cette voix d'Arnaud pour vous, le docteur phoniatre?
Elle dit que heureusement qu'il y a au-dessus des cordes vocales un petit bourrelet qu'on appelle les bandes ventriculaires. Là, il serre tellement ses cordes vocales qu'il utilise ce qu'on appelle une voix des bandes. C'est des cordes de secours, comme une roue de secours. Quand il y a un défaut au niveau des cordales, ces bandes ventriculaires viennent remplacer la corde. Et là, il a un tel serrage qu'il utilise ces bandes ventriculaires. Mmh. Alors, de temps en temps, c'est un peu moins serré, alors on a un son vraiment plus clair. Et puis, de temps en temps, il serre énormément. Mais c'est un goût, c'est un choix, à mon avis.
Voilà,
c'est pas seulement... c'est un choix. C'est
de
un
la
choix.
Voix d'Arnaud, c'est uniquement dans la librairie francophone. Merci beaucoup, docteur.
Je vous en prie.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Claude Fugain, donc, dans cette émission, pour son livre « Médecin des voix » paru chez Grasset. On a entendu tout à l'heure la voix de Renaud aussi, avec son nouveau titre qui est assez commenté en ce moment, « Une voix qui vrille, parfois une voix qui inquiète ». Quelle est votre analyse?
C'est très difficile de l'analyser comme ça, parce que bon, je connais bien Renaud, je l'ai eu comme patient aussi quand il avait un petit peu plus de voix, à une époque où il recommençait à chanter. Donc on avait d'ailleurs travaillé un peu ensemble. Mais bon, je pense qu'il y a certains toxiques qui attaquent définitivement un petit peu les cordes vocales. Tout le monde sait qu'il fumait beaucoup, tout le monde sait qu'il a un peu abusé de certaines boissons alcoolisées.
Ça attaque la voix?
Ah oui, oui. Ça crée une inflammation permanente au niveau de la sphère ORL d'une façon générale. En plus, il dit lui-même qu'il utilisait des boissons anisées qui sont un peu toxiques pour...
Ça, c'est pire que tout.
C'est donc, des neurotoxiques.
Quand on dit que c'est bien de fumer, c'est bien de boire du whisky pour avoir une belle voix, c'est complètement faux.
Oh non, mais enfin, c'est des petits fantasmes, je vais dire un peu à la con, si je peux me permettre l'expression.
Vous pouvez.
Des petits fantasmes. De la même façon, on dit toujours dans un studio, on boit du Bordeaux. Alors, l'alcool désinhibe, donc on a l'impression qu'on va avoir une super voix. Mais ça, c'est une légende.
Il n'y a pas de Bordeaux.
C'est une légende. Enfin bon, ça désinhibe. Ok, d'accord.
C'est tout. Bon,
c'est tout pour moi.
Vous expliquez que notre voix dit beaucoup de nous, mais elle peut aussi changer en raison d'un choc émotionnel ou simplement d'une contrariété. Ça me laisse sans voix, c'est plus qu'une expression. Vous l'avez raconté tout à l'heure avec cette patiente, Annick. Et lorsque vous êtes médecin, phoniatre, ORL à l'hôpital, vous recevez des personnalités, mais aussi des anonymes. Mais les personnalités, il y a quelque chose de particulier, parce que quand vous avez affaire à des grands patrons, quand vous avez affaire à des hommes politiques, ça devient un instrument du pouvoir. La voix.
Mais c'est un instrument de pouvoir. Au bon sens du terme, le pouvoir de séduire, le pouvoir d'intéresser, le pouvoir d'agir sur, la possibilité d'agir sur autrui, c'est un pouvoir permanent. Le pouvoir qu'on a sur ses enfants, qu'on a quand on est enseignant, quand on est médecin, le pouvoir de convaincre quand on est un commercial. Nous, nos patients, ce sont des enseignants et des commerciaux. Il y a des chanteurs et des comédiens, mais c'est anecdotique. En fait, nos patients sont des gens pour lesquels le principal outil est la voix. Oui, oui. Voilà. Donc, effectivement, c'est un pouvoir. D'ailleurs, on voit que les femmes, en gagnant du pouvoir, ont perdu des aigus. La voix s'est transformée progressivement, et c'est vrai qu'elles ont des voix plus graves.
Oui,
mais
vrai.
Nos goûts changent, les voix changent au fil des années, mais les goûts changent. On n'aimait que des voix claires, Tino Rossi, Mireille, enfin,
oui, oui.
Voilà. Et puis on a aimé Patricia Cass, on a aimé des voix voilées, raillées, rauques. On a des goûts assez particuliers. C'est pour ça qu'il n'y a pas de normes.
Vous analysez à chaque fois les voix quand vous en entendez une? Vous ne pouvez pas vous en empêcher?
Alors, ce n'est pas une analyse, mais j'ai un avis personnel, mais je pense que dans chaque profession, on a cela. Quand on est menuisier, oui. On doit regarder avec intérêt une fresque. Mais c'est vrai que c'est amusant de juger cela, bon, d'avoir un avis sûr.
Dans ce livre, vous racontez avoir été choqué par le discours du président français Emmanuel Macron le 10 décembre 2016, alors qu'il est en campagne. Tout le monde connaît ce son quasiment. En tout cas, on va le réécouter et vous allez nous dire pourquoi ça vous interpelle.
Moi, je le porterai dans la durée. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous allez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Voilà, la voix d'Emmanuel Macron en campagne. Ça vous choque, ça vous...
C'est douloureux. Ouais. L'entendre provoque une certaine douleur. On plaint beaucoup ses cordes vocales. Oui, c'est vrai que pour une fois, j'ai fait une démarche puisque j'ai pris mon téléphone et que j'ai appelé quelqu'un dont je savais qu'elle travaillait dans la communication et proche d'Emmanuel Macron pour lui dire que ça, une fois, c'était possible, mais deux, c'était absolument impossible pour sa carrière parce qu'il allait traîner cela et d'ailleurs, on le réentend toujours et je sais qu'il a travaillé un peu après, mais c'est pas une grande voix. Mais les grandes voix ne sont plus vraiment à la mode. Macron, il avait tout à fait intérêt à travailler, je sais qu'il a fait donc.
Bon, vous êtes angoissé aussi, Claude Fugain. Quand vous avez été coach vocal de votre frère, Michel Fugain, quand il se lance avec le Big Bazar, vous avez peur qu'il perde sa voix.
Il avait assez peu appris à chanter,
Et comme il forçait un peu, ouais, ça
il
vous
inquiétait. Il forçait tout le temps. Et comme beaucoup de chanteurs, il ne s'intéressait à la voix qu'au moment d'aller sur scène, un peu tard.
Ouais, ouais.
Voilà. Donc effectivement, j'ai toujours eu peur qu'il la perde. Et encore maintenant, je ne vais jamais voir le spectacle parce que j'ai toujours une crainte qu'il y ait un problème. Mais bon, c'est un problème entre lui et moi.
C'est ça. Jeanne Moreau aussi est venue vous consulter quand un jour elle est dévastée par son divorce. Elle perd sa voix. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces artistes-là, chez vous? Vous n'êtes pas une magicienne non plus. Comment vous faites?
Alors, on a des médicaments pour traiter, oui. Mais on a surtout des exercices pour montrer qu'elle est là, la voix. On les rassure sur leurs possibilités. On explique pourquoi il y a des problèmes. Parfois, ça suffit pour que la voix se corrige assez rapidement. C'était le cas de Jeanne, qui a toujours eu une voix magnifique. Et ça m'avait frappée à l'occasion de son décès. Tout le monde ne parlait que de sa voix.
Ouais.
Et en oubliant la caricature des dernières années, en ne se souvenant que de la voix rauque, sensuelle, sexy, enfin, etc. Mais surtout, c'est reprendre confiance en soi.
Bon, on va l'écouter, Jeanne Moreau.
Est-ce que vous faites des caprices de star?
Non.
Moi. Jamais?
Ah non, j'aime trop être à l'heure. J'ai une discipline de fer qu'on m'a apprise très très jeune. J'y tiens beaucoup, sinon je craque.
Wow. C'est votre papa, ça?
Les religieuses.
Ouais.
Et puis, pour les pâtés, mon
ouais.
père. Et puis la Comédie Française, quand
ouais.
j'y suis entrée, c'est une sacrée école.
Elle est très reconnaissable, cette voix, mais elle semble éraillée par un problème de corde vocale.
Mais là, ce sont quand même, c'est une voix des dernières années, quand oui, même. Oui, hein. Oui. Elle avait une pathologie des cordes vocales, je peux dire, elle avait un œdème des cordes vocales extrêmement important. Je lui avais suggéré d'en faire aspirer une partie. Bon, elle n'avait pas très envie, elle savait qu'elle n'allait plus vraiment travailler. Mais on a travaillé un peu sur son dernier film important, c'est là aussi sur Nikita, puisqu'elle jouait un rôle auprès d'Anne Parillaud. Mmh. Et on avait travaillé à ce moment-là pour éviter de tomber dans la voix un peu ordinaire, un peu vulgaire, un peu voix de fêtard qu'elle finissait par avoir.
Et à l'inverse, vous aviez travaillé avec Anne Parillaud pour affirmer sa voix.
Absolument.
C'est Luc Besson qui vient vous voir, qui dit « j'ai un rôle de dingue ». Nikita, c'est très violent. Et Anne, bon, elle est toute fragile par sa voix. Voilà. Il faut lui donner de la puissance, il faut lui donner du corps.
C'était un travail passionnant, passionnant pour moi.
Quatre libraires ont lu votre livre, Claude Fugain, la Suisse, le Canada, la France et la Belgique. On commence par qui ?
Oh, ce qui vous voulez.
Non, mais ne soyez pas inquiète comme ça. On a l'impression d'être dans votre cabinet et que nous sommes les patients.
J'ai peur, je suis à l'école, là, subitement.
Bon, qui on veut, je ne sais pas, un gentil Thomas Auxerre pour la France, tiens.
Ah ben
non,
oui,
non, pas. Il n'est pas toujours gentil en même temps.
Il est en face de moi.
Oui,
donc
bah alors peut-être que... Bon.
Non, bah, écoutez, moi Claude, ça s'est très bien passé. C'était une vraie découverte. J'ai aimé votre livre. Les anecdotes de médecins et de professionnels de la voix sont touchantes et belles. En plus, bah, elles éclairent sur son fonctionnement. Et puis, bah, on n'imagine pas tout ça. Hein. Et puis en plus, ça vous révèle aussi, vous, derrière votre blouse blanche, comme quelqu'un de passionné par les autres. Vraiment, je recommande.
Ah, oh, c'est gentil.
La
c'est
Suisse. Gentil. Dominique Bressot, allez-vous être gentille ?
Non, oui, non, mais moi je suis comme Thomas, j'ai à peu près le même avis en fait. J'ai été très impressionnée par l'émotion qui se dégage à chaque page. Non seulement celle des patients qui ont l'air de renaître, mais aussi celle de l'auteur. C'est vraiment une lecture passionnante et en le refermant, on peut pas s'empêcher de penser à toutes ces personnes qui n'ont pas la place qu'ils méritent simplement parce qu'ils n'ont pas assez travaillé leur voix.
Déborah pour la Belgique. Alors.
Mais suspense, est-ce que je vais être gentille? On a, d'habitude, on entend dire que ce sont les yeux qui sont le miroir de l'âme. Et bien, quand on vous lit, on comprend qu'en fait, en réalité, c'est la voix. Et j'ai trouvé votre livre tout à fait passionnant, passionnant. Autant d'un point de vue technique qu'humainement. Mais je trouve qu'une vraiment bonne partie de son intérêt repose sur ce côté humain, justement. Et même pour un livre pratique, il se dévore, il se lit, parce qu'il est bien écrit et qu'il touche au cœur.
Ça va, oui, Claude Fugain.
Ah oui, ça va. Mais c'est, il faut pas oublier dans cette écriture Violaine de Monclos,
oui,
sans laquelle je n'aurais pas pu, j'arrivais pas à mettre les choses de façon chronologique, qui m'a énormément aidée. Enfin, elle est pour beaucoup dans cette littérature.
Bon, on va voir si vous faites l'unanimité avec le Canada.
Aïe, aïe, aïe.
C'est pas la plus facile, hein. Josiane Letourneau, je préviens.
J'ai peur d'avance, là. Je suis terrorisée, là.
C'est pas vrai. Eh bien, moi, je m'attendais pas à être si touchée par votre livre et par votre histoire, docteur Fugain. Je vais avouer également avoir été agréablement surprise par la grande qualité de votre écriture. Et au-delà de tout, vous m'avez fait réaliser le réel impact d'une voix. Et la vôtre en a guéri et fait naître une multitude. Et juste ça, c'est réellement magnifique et tellement riche d'humanité.
Bravo, Claude Fugain. Tout le monde a aimé votre livre. Merci. C'est chez Grasset, je le rappelle, médecin des voix. Peut-on se fabriquer une voix ? Est-ce vraiment possible de modifier sa voix de façon pérenne et naturelle, docteur ?
Il y a une comédienne que vous devez tous connaître et dont je ne donnerai pas le nom, qui disait un jour, j'étais une enfant disgracieuse, avec une trop grande bouche, trop maigre, trop ingrate.
Catherine Deneuve.
Non.
Pardon.
Et je pense vraiment qu'elle a sensualisé sa voix.
Fanny Ardant.
Je suis restée sans voix. Vous avez cette impression ? Moi, j'ai l'impression qu'elle a sensualisé sa voix. C'est pas une voix, mets des guillemets, ça n'est pas une voix tout à fait naturelle.
C'est
une voix particulière. Et je pense que le fait d'avoir eu l'impression qu'elle était une enfant ingrate, c'est elle qui le dit, ça n'est pas moi, bien sûr. Et je pense que ça a permis cette évolution-là et ce choix de voix très sensuelle, très sensuelle, très féminine, trop féminine parfois.
Et c'est le langage du corps, vous le dites d'ailleurs. Chez
c'est
Fanny
un
Ardant,
morceau
on le
du
voit.
Corps. Eh oui. C'est un morceau du corps et ça correspond
assez. C'est un prolongement
assez...
du corps.
Absolument,
la voix.
Absolument. Ouais.
Pourquoi faut-il prendre soin de sa voix, Claude Fugain ?
Parce que c'est un outil de compétence. Travailler sa voix, c'est un développement de compétence. On devrait faire cela dès l'école primaire.
Et est-ce qu'on peut la contrôler ? pour lui éviter de trahir nos déceptions ou nos sentiments.
Mal.
Mais oui.
Parce qu'elle nous trahit facilement et en même temps, on est très sensible à ça. Quand un politique nous assène des choses et puis subitement on lui parle de quelque chose qui va le toucher, là il devient intéressant en fait. Et c'est valable pour tout le monde. Non, l'émotion, elle est très importante dans la voix. Elle est inhérente à un individu, à la personnalité de quelqu'un.
Bon, elles vous ont plu, les voix de nos libraires ?
Absolument, surtout, c'était le contenu qui m'a plu
c'est
beaucoup.
C'est vrai.
C'est le contenu, c'est pas que le contenant.
Bon, merci beaucoup Claude Fugain.
Je vous en prie, merci de votre invitation.
Merci infiniment. Médecin des voix est paru chez Grasset. On va terminer avec la BO de votre livre. On vous a laissé choisir un titre qui peut illustrer votre ouvrage. Et vous avez choisi Marie Laforêt ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce qu'on lui a dit un jour, vous avez une très belle voix. Et elle a répondu, je n'ai pas une très belle voix, j'ai un timbre.
Viens, que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens, n'a qu'un lourd silence, viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme? Qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman, au septembre, viens, viens, repeins la chambre, viens, viens, comme avant semble, viens, viens, vous y dormirez.
Sur cette voix de la regrettée Marie Laforêt, notre séquence livre de poche à présent pour toutes les bourses avec deux voyages, l'un au Maroc, l'autre en Algérie. On commence par le Maroc pendant sa période noire. Tahar Benjelloun a fait une étrange confidence 50 ans après les faits dans un roman récit choc qui vient de sortir chez Folio. Tahar Benjelloun est donc avec nous pour un récit très personnel. La punition, c'est le titre, une punition qui va durer 19 mois. Le 16 juillet 1966, vous êtes convoqué à vous présenter le lendemain à côté de Meknès, dans un village où il n'y a que des militaires.
El Hajeb,
voilà.
S'appelle.
Qu'aviez-vous fait pour ça ? Vous avez compris tout de suite ou pas ?
Oui, oui, bien sûr, parce que j'étais prévenu un petit peu. J'avais participé à des manifestations en mars l'année d'avant, en 1965. Mais surtout, j'étais responsable syndical étudiant dans la cellule de Tanger. Et ils avaient arrêté tous les étudiants qui avaient des responsabilités dans le syndicat, dont moi.
Alors quand vous arrivez dans ce camp militaire, vous ne savez pas quand vous en ressortirez. Votre frère qui vous accompagne a même le sentiment de vous abandonner. Il en pleure devant la porte du camp. Un militaire le rassure gentiment. Et dès que la porte se referme, on vous frappe dans le dos. Et puis on vous rase la tête. Et là l'enfer commence.
À raser, c'est pas le mot, c'est tondre. Comme un agneau, on m'a tondu parce que j'avais les cheveux longs, j'avais 20 ans. Ils ont rasé avec une lame un peu rouillée pour un peu faire mal. Oui. C'était 2 heures du matin. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et alors, le fait de ne pas savoir si on va un jour être libéré faisait partie de la maltraitance. Comme ça, on mettait un peu le doute et la folie dans la tête des gens.
Alors, le pire, ce n'est pas la nourriture toujours avariée qu'on vous fait manger, ni l'insalubrité des sanitaires. On se retient même d'aller aux toilettes, tellement c'est sale, c'est ce que vous racontez. Voilà. C'est ce qui vous attend sur le terrain. Il y a des entraînements comme ça, en pleine nature, et notamment des entraînements au combat, à balles réelles.
Alors, il y avait deux façons de nous maltraiter. La première, c'était par exemple de nous faire transporter des pierres très lourdes sur 5 km sur le dos, les déposer et reprendre d'autres pierres et les ramener de l'autre côté. Bon, ça c'est l'été quand il fait très chaud.
Oui, bien sûr.
Et l'hiver, quand il neige, alors là, on nous convoque à 4h du matin avec un tout petit t-shirt et un short, et des sandales, pas de chaussures, et de rester debout de 4h à 8h du matin. Et celui qui tombe reçoit un coup de bâton sur la tête. Donc ça, c'était la première façon de nous maltraiter. La deuxième, c'était de faire des manœuvres, mais malheureusement à balles réelles. Et avant de partir, il nous disait, nous avons, d'après la loi ou je sais plus où, les habitudes, nous avons droit jusqu'à 3% de
De mort,
oui,
de victime.
De déchets, ouais. Les victimes, voilà.
Mais pour vous, c'est 5%.
Oui,
ils disent ça. On peut aller jusqu'à 5% pour vous.
Oui, oui, voilà. Bon, enfin, là, c'était
et alors, vos collègues n'y croient pas. Hein. Ils se disent, mais non, c'est des balles à blanc, c'est pour rigoler. Sauf qu'il y a des blessés, vraiment.
Il y a des blessés, oui, oui, bien sûr.
Et là, vous dites, non, c'est à balles réelles.
Il y a eu des morts, mais on ne les a pas vus. Et la seule chose qui s'est passée, c'est que le soir, le commandant Ababou, celui qui va faire le coup d'État de 71, nous avait tous réunis il nous a dit, on a fait des manœuvres, il y a eu des dégâts, c'est normal, mais personne n'est mort. Tout en disant que, bien sûr qu'il y a eu des morts, mais c'est-à-dire, officiellement, personne n'est mort.
Retenez ça, il n'y a pas eu de mort. Bon. Ouais. On va laisser la place aux libraires, Tahar Ben Jelloun. Vous les connaissez, vous les adorez.
Ah, moi, j'aime beaucoup les libraires.
Alors, on va voir si vous les aimez encore à la fin de leurs.
Ils ont le droit d'aimer ou de ne pas aimer, absolument.
La France, avec Sophie Todescato.
Oui. Alors, c'est pas un livre dont on se dit c'est un bon livre, un mauvais livre. C'est un livre qui frappe tout de suite. C'est un livre dont on est captif parce que déjà, il documente de manière très, très précise, très détaillée un épisode dont personnellement, j'ignorais tout. Mais ce qu'il y a d'assez intéressant et d'assez surprenant, c'est l'écriture de ce livre. Au début du livre, j'ai trouvé que c'était une écriture. Alors, est-ce qu'on peut dire pauvre? Est-ce qu'on peut dire aride? Est-ce qu'on peut dire modeste? En tout cas, très surprenante parce que des phrases très courtes, très économes. Et au fur et à mesure du livre, ce qui se passe, c'est que cette faiblesse devient une force et que, à la fin du livre, on a l'impression que ce récit, il a été écrit par le détenu Ben Jelloun jeune, qui est authentique, qui est juste.
Merci.
Ça a failli mal
non,
finir.
Non, mais non, moi,
c'est nickel. Marie-Noëlle Blé, au Canada, êtes-vous d'accord?
Oh, je suis absolument d'accord. J'ai trouvé ce récit aussi prenant qu'éreintant, hein, et éreintant parce qu'on se retrouve vraiment fixé à la narration qui laisse aucun répit. L'attention est évidemment à son comble et puis souvent on peine à croire que c'est réellement arrivé. Et pour ma part, je suis restée sur le qui-vive tout le long, en espérant évidemment qu'une chose, la libération. C'est écrit dans une langue que j'ai trouvée, moi, sincère, sans phare et qui oblige évidemment le lecteur à une grande intimité, à une immense empathie avec le narrateur. C'est vraiment un récit instructif et porteur de très importantes réflexions.
Merci.
Il est satisfait. On vous libère finalement au bout de 19 mois donc, mais vous avez du mal à vous réacclimater à la vie normale, Tahar Ben Jelloun. Vous dormez à même le sol et surtout vous vous questionnez sur votre réelle liberté. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là?
Il y avait beaucoup de confusion. Je devais absolument terminer ma licence de philo, donc j'avais quelques mois pour terminer ma licence. Et puis, j'étais préoccupé aussi par le chagrin et la tristesse de ma fiancée qui était partie. Donc j'étais vraiment libéré, mais pas
entravé,
heureux.
Entravé.
Pas heureux.
Le roman de Tahar Ben Jelloun, La Punition, est sorti en poche chez Folio Gallimard. Cap sur l'Algérie à présent, avec une autre confidence personnelle, signée Jean-Noël Pancrazi. Il était dans la librairie francophone en janvier 2018 pour son livre qui vient de sortir en poche. Voici un extrait. Réjouissons-nous avec Jean-Noël Pancrazi, qui est dans la librairie francophone pour un récit poétique et poignant sur un retour manqué en Algérie. Alors Jean-Noël, on vous connaît pour La Montagne, Tout est passé si vite, grand prix du roman de l'Académie française, Les quartiers d'hiver, prix Médicis, Madame Arnoux, prix du livre Inter. Vous publiez Je voulais leur dire mon amour chez Gallimard, le récit d'un retour en Algérie tardif, car depuis 1962, vous n'y étiez jamais retourné.
Non, je disais que je n'y retournerai jamais. Justement, à l'occasion de la parution de La Montagne, on m'avait souvent posé la question « Pourquoi n'y retournez-vous pas ?» Et puis, par appréhension et aussi parce que je ne trouvais pas le bon moment, la bonne manière. Je voulais pas d'un voyage pèlerinage. Je voulais pas à tout prix pleurer sur les lieux du passé. Mmh. Et en même temps, je voulais connaître l'Algérie nouvelle. Mais être libre. Donc, je ne trouvais pas la bonne manière.
Ouais. Mais on a l'impression que dans votre esprit, Jean-Noël Pancrazi, il y a une tornade, comme ça, et qu'il y a une urgence d'écrire, pour ce livre-là, hein, je parle. Parce que moi, j'ai lu les autres, La Montagne notamment, et ce n'est pas du tout construit comme ça. C'est assez alambiqué, c'est assez confus parfois. Vous jetez comme ça sur le papier des souvenirs, et puis vous revenez au réel, et puis vous repartez dans l'actualité. C'est un gros mélange, comme si, une fois de plus, vous aviez cette urgence d'écrire ce récit.
Ben, je l'ai écrit très vite après ce qui s'est arrivé. C'est-à-dire que...
C'était en 2016. Hein.
C'était en 2016 et donc j'ai effectué ce retour qui était d'abord heureux. Puis ensuite, j'étais obligé de repartir sans explication le dernier jour du festival, après la fin du festival.
Ouais, il va se passer quelque chose de très grave pour
vous. Oui, alors c'est pour ça, si vous voulez, j'ai écrit le livre à brûle-pourpoint sur le coup de l'émotion.
Batna doit contrôler la montagne qui l'entoure, une position stratégique.
Patna est ville de garnison. Au plus fort de la guerre d'Algérie, elle a compté autant de militaires que de civils, presque 30 000 hommes. D'un bout à l'autre de la planète, les empires coloniaux disparaissaient. L'Algérie ne pouvait faire exception.
Voilà, Batna, où vous avez essayé de retourner à Jean-Noël Pancrazi. Je sens très concentré.
Oui, après... très ému aussi, ouais. Parce que c'est ma ville.
Ouais. Après ce festival, en fait, vous préparez une escapade dans la ville de votre enfance. Vous sympathisez avec des Algériens qui sont sensibles à votre histoire, qui vous trouvent une voiture. Mais au moment de partir, à l'hôtel, on vous ordonne de préparer vos affaires, tout de suite, et de quitter l'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
Je ne sais pas. C'est-à-dire que je n'ai pas compris
on vous a empêché
ce qui
d'y
s'est
aller.
Passé. C'est-à-dire que moi, je n'allais pas faire une escapade en cachette. Hein, c'était convenu que je parte à Batna. Le festival n'était qu'un écran, si on peut dire. Hein. Derrière l'écran, je voulais voir la réalité, ou revoir la réalité sans comparer avec le passé, justement. Et puis, j'ai dû repartir tout de suite. Donc j'ai eu l'impression d'un cauchemar, de revivre ce que j'ai vécu en 62, parce que c'est d'Annaba qu'on est parti sans rien. Avec deux valises, comme beaucoup de Français d'Algérie, sur un bateau. Et là, j'ai repris l'avion. Alors je dis, je suis un peu ironique dans mon livre en disant, cette fois, c'est dans de bonnes conditions. Je suis à l'avant de l'avion, il n'y a pas grand monde. Ouais. C'est pas les milliers de personnes sur les quais qui ont attendu des jours en juillet.
Mais c'est la
mais
même chose.
C'est la même chose. C'est la même chose.
Alors c'est pour des raisons de sécurité, on vous dit. Vous n'y avez jamais cru à ça?
Écoutez, une fois la tristesse évaporée, si on peut dire, j'ai enquêté, je dirais. Oui, il avait été question d'un attentat islamiste. Et peut-être a-t-on eu peur qu'en partant seul en voiture sur cette route des Aurès, j'ai le même sort que Hervé Gourdel qui avait assassiné en Kabylie.
Claire Renaud.
Oui, moi, pour entrer dans votre livre, figurez-vous que je l'ai lu à haute voix. Et du coup, j'ai savouré votre langue que j'ai trouvée très proustienne. Et vos souvenirs, en fait, pourraient se tenir en une seule phrase, votre titre.
Oui, je voulais leur dire mon amour, c'est le titre du livre. Il est scotché, Jean-Noël.
Je voulais
c'est
vous dire mon
bien.
Amour.
Oui, c'est ça. Il ne se rappelle plus du titre de son livre. Ça ne va plus du tout.
Je ne sais plus qui est l'heure. Voilà.
Bon, merci Jean-Noël Pancrazi. Merci beaucoup. Votre récit est paru aux éditions Gallimard.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone avec le chanteur syrien Omar Souleymane.
انسى والزفة باجر
محبس والي ساور من اسطنبول تجيبين المحبس والي ساور من اسطنبول تجيبين
C'était Omar Suleiman avec un extrait de Chitridine, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Frédéric Milano avec Juliette Delpeyro. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Techer en Suisse, René Mikils avec Valérie de Putain en Belgique, Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. La librairie francophone à la télévision, 8e édition, c'est à partir de lundi sur RTS2 en Suisse et sur ICI RTV au Canada, samedi 7 sur RTBF La 3 et dimanche 8 décembre sur TV5 Monde. La semaine prochaine, le Belge Jean-Philippe Toussaint, le Suisse Mathieu Mégevant et un événement avec Diane Tell à la guitare dans notre studio. Bonne semaine, beau week-end.